deux chiffres, 12 et 1,1. 12 pour 12 nominations au César, 1,1 pour 1,1 million d'entrées. On va bien sûr ce soir parler du règne animal en présence de son réalisateur Thomas Caillé et de Thierry Lacaze, directeur de la distribution de Studio Canal. C'est Opening Weekend numéro 60 et c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, vous aurez reconnu un petit peu le thème du règne animal, l'un des thèmes musicaux de ce film qui a fait tant parler depuis sa sortie et même depuis sa présentation à Cannes. On y reviendra tout à l'heure. On a le plaisir, l'immense honneur d'être avec son réalisateur. Bonsoir Thomas Caillé.
Bonsoir à tous.
Ravi de vous avoir avec nous. C'est une émission qu'on souhaitait faire depuis longtemps et également aussi en faire une avec Studio Canal. Ceux qui nous écoutent le savent. Bonsoir Thierry Lacaze.
Bonsoir.
Ravi de vous avoir à nos côtés. Je dis nos parce que je suis bien accompagné ce soir en la présence d'Arthur Pavlovski. Salut Arthur.
Salut Aurélien, bonjour à tous.
Julien Bernard, salut Julien.
Bonjour tout le monde, quel plaisir d'être là ce soir.
Et Charlotte Escolier, salut Charlotte.
Salut Aurélien, bonjour à tous.
Je le disais, le film qui a fait tant parler ces derniers mois, Le règne animal, qui est toujours à l'affiche de certaines salles, là aussi on y reviendra tout à l'heure dans le box office France, eh bien, c'est un phénomène qui a été auréolé là, de 12 nominations. Comment vous avez reçu ces nominations, Thomas, là, il y a quelques jours maintenant?
Eh bien, par Internet. Non mais ouais, bah, très ravi quoi, j'étais hyper content, j'étais en plus en train de partager un café avec ma co-scénariste, donc on s'est auto-félicité et on a passé un coup de fil à tous les membres de l'équipe, c'était très chaleureux et très joyeux.
Est-ce qu'il y a eu justement là depuis la sortie du film un tournant en tout cas dans la façon dont vous avez l'impression que les gens reçoivent le film? Qu'est-ce qui vous a vraiment marqué là depuis la sortie, j'entends?
Je crois que ce qui m'a touché le plus, c'est de voir que des spectateurs y étaient retournés pour y amener des gens. Ça, j'étais très, très sensible à ça, notamment qu'il y ait une forme de transmission intergénérationnelle autour du film, parce que le film parle de ça. C'est un film sur la transmission entre un père et un fils, entre un fils et un père aussi. Et ça s'est passé de cette façon-là aussi en salle, avec des parents qui amènent leurs ados et des enfants qui retournent en y amenant leurs parents ou leurs grands-parents. Et ça, j'ai trouvé ça très, très chouette. Ouais.
Et c'est vrai que c'est un film qui, on l'a vu, a presque changé de perception aux yeux du public au fil des semaines où il était à l'affiche. Comment, chez Studio Canal, vous avez appréhendé ça? Parce que je me souviens très bien que nous, quand le film est sorti, on pouvait avoir le sentiment qu'il allait s'adresser à un certain public et que derrière, ça a complètement été chamboulé.
Alors nous aussi, on a été chamboulés, je vous rassure, parce qu'on n'a jamais toutes les clés. En tout cas, on a cherché d'en avoir le plus possible pour ce film-là. Et c'est toujours facile, en tout cas plus facile, de trouver des clés quand on a un film qui nous happe, comme c'était le cas du règne animal. Dès les premières projections qu'on a pu faire du film, on a su d'abord qu'on avait affaire à un grand film. Et c'est ensuite que s'est posée la question de la cible. On est dans des métiers où tout de suite on pense d'abord à ça, parce qu'aujourd'hui le marketing fait tout. Et il s'avère que tout à coup, quand on voit ce genre de film, c'est d'abord notre plaisir premier de spectateur de cinéma qui prend le pas. Et je pense que c'est ça qui nous a guidés tout au long de la trajectoire de ce film-là. J'ai le sentiment d'ailleurs qu'on n'a fait que récupérer une trajectoire qui avait déjà été tracée par Pierre Guillard, le producteur de ce film, et par Thomas, qui en était les premiers investigateurs. Nous, on a récupéré en fait un bébé, j'ai envie de dire, qui était déjà bien en forme. Et ensuite, tout notre travail a été justement de chercher à qui ce bébé pouvait-il s'adresser le mieux possible. On avait envie naturellement de partager cette expérience avec le plus grand nombre, mais j'ai envie de dire... Rares sont les distributeurs à passer, je pense, à ce micro, qui ne veulent pas toucher le plus grand nombre. C'est d'autant plus difficile quand il y a un film où on sent qu'il ne ressemble à aucun autre film, à aucune autre proposition de cinéma. On est dans des métiers où on cherche toujours des comparables en entrée, en termes de cible marketing, en termes d'affiches, en termes de plans médias, de tout ce que l'on veut. Celui-là ne ressemblait à aucun autre. Donc du coup, ce qui était hyper intéressant, c'est qu'il y avait tout à créer, quand je dis tout a créé, on n'a pas créé tout seul, on a créé ensemble avec Thomas, avec Pierre, avec l'ensemble des équipes de Studio Canal et de Nord-Ouest pour faire en sorte que ce film-là ne rate pas sa cible première qui était celle de gens qui aiment d'abord le cinéma, qui aiment tout type de cinéma, j'ai envie de dire, et après effectivement d'aller de manière un petit peu plus précise, j'ai envie de dire, soit vers le jeune public, soit au contraire vers les gens qui aiment principalement le cinéma français. On le sait qu'il est une cible plus âgée que la moyenne des spectateurs de cinéma.
Thomas, quand le film est sorti, quand on l'a découvert aussi en salle, on s'est tous, je pense, autour de cette table posé la question, comment est-ce qu'on arrive à faire un film comme ça en France? Alors je sais que votre premier film qui avait déjà en son temps, on le rappelle, Les Combattants, était reconnu à la fois par des prix et aussi par le public, et par la suite par aussi beaucoup de lycéens, puisqu'il a intégré des dispositifs de lycéens au cinéma, réussissait à l'époque déjà à mêler les genres, à aller justement à ne pas être estampillé film de genre. Et je pense que pour rebondir sur ce que vous disiez, Thierry, on avait ce sentiment dès l'affiche que c'était pas un film de genre, mais au contraire un film de cinéma centré sur deux personnages. Et cette question-là, c'est vrai qu'on peut se la poser derrière quand on voit l'ambition du projet. C'est-à-dire que c'est presque, pour là aussi rebondir sur ce qui a été dit, presque un paradoxe au tout début, en tout cas, d'amener cette affiche-là pour un film qui est en réalité, aux yeux à l'échelle du cinéma mondial, un blockbuster. Enfin, en tout cas, comparé à ce qu'on peut voir à Hollywood. À Hollywood, ce serait considéré comme un film de Del Toro ou de Spielberg. Enfin, il y a cette ambition-là, en fait, dans le film, je trouve. Est-ce que comment est-ce qu'on a réussi à arriver à ça en France, en fait? C'était ça ma question au départ.
Ouais, vaste question. Ce qu'on n'a jamais lâché, c'est les personnages, quoi. Je crois que c'est vraiment ça le cœur du truc. Moi, c'est ça qui m'obsède pendant l'écriture, la prépa, la réalisation, enfin le tournage et toute la suite, c'est de jamais lâcher ce cœur-là. C'est que si on s'attache aux personnages, si leurs parcours sont intéressants, s'ils nous troublent, dans ce cas-là, tout devient possible. Et ce qu'on a essayé de faire, en tout cas dès le début, dès l'écriture du scénario, c'est de pas se limiter, c'est-à-dire de pas chercher surtout à faire des moyennes. C'est-à-dire quand il y avait une scène qui allait vers l'action pure, on y allait. Quand il y avait une scène qui allait vers le mélo, on y allait. Quand il y avait une scène qui allait vers la comédie, on y allait. Et on n'a pas essayé de chercher de moyennes. Donc évidemment, après il y a du travail dans les mouvements du film pour que ça crée une musique, pour que ce soit cohérent, etc. Mais on n'a pas essayé de le rendre monochrome. Au contraire, on a essayé qu'il propose toute sa diversité jusqu'au bout. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on a beaucoup eu à en discuter au début, mais c'est un truc qui n'a pas du tout été gênant après. C'est plus du tout une question qu'on s'est posée quand on l'a montré en projection, quand le film était en train de dans ses dernières phases de montage ou de post-prod, ça posait plus de problème à personne. Alors que si on regardait, si on est un peu analyste, on regarde le truc, on se dit en fait c'est un peu chelou comme ça fonctionne. Mais en réalité, je crois que si on s'attache au personnage, voilà, il y a une grande liberté qui est possible.
Mais c'était déjà un peu le cas sur Les Combattants. Je me souviens, au moment de la sortie, on basculait comme ça presque dans le film catastrophe, d'une certaine façon, sans y avoir été du tout amené au départ. Il y avait déjà cette volonté-là.
Oui, il était déjà hybride, mais disons que dans les Combattants, pour moi, c'était plus un parcours... comment dire, il y avait des étapes. Il y avait un premier acte autour d'une espèce de station balnéaire. Il y avait un deuxième acte plus comique dans l'armée. Ensuite, il y avait un troisième acte qui était une espèce d'évasion panthéiste, plus lyrique, plus romantique. Et on finissait dans une dernière partie, dans quelque chose qui était presque, enfin qui amorçait du fantastique et tout. Donc voilà, on passait, comment dire, d'un registre à l'autre. Là, c'est vraiment constamment, c'est presque d'une scène à l'autre. Et enfin, moi, c'est ça que j'ai trouvé très excitant aussi à faire, c'est que ça autorisait aussi beaucoup de genres différents, accueillir beaucoup de genres différents dans le film.
Alors, entre Les Combattants et Le Règne Animal, il y a eu cette série télé Ad Vitam qui a aussi fait beaucoup parler d'elle à sa sortie. Série qui, je crois, était passée sur Arte, c'est ça. Et je pose une question toute bête, mais il y a un an, jour pour jour, on était avec Emmett Shyamalan, à qui justement on demandait dans quelle mesure la série qu'il avait fait pour Apple TV avait changé sa façon d'appréhender le cinéma derrière et sa façon de peut-être d'écrire ou de réaliser. Est-ce que vous, dans votre façon de travailler, justement entre Les Combattants et Le Règne Animal, séparés par quasiment 10 ans, est-ce qu'il y a eu cette série a changé quelque chose?
Ouais, je sais pas trop. Sans doute, il y a quand même un apprentissage. Je crois que tous les réalisateurs qui passent par la série disent qu'il y a un apprentissage de l'efficacité parce que tout simplement le minutage utile au tournage est multiplié par 3 et qu'on a peu de, on jette peu en fait en série. On monte à peu près tout ce qu'on a. Donc ça, c'est sûr que c'est une bonne école pour ça. Après ça, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un vrai prolongement. Enfin, pour moi, ça n'a pas été une rupture dans le travail. On bosse avec les mêmes outils quoi.
Mais la série amenait déjà cet univers, on va dire, de science-fiction donné comme tel d'emblée.
Oui.
Ce qu'il n'y avait pas dans Les Combattants justement.
Mais ce qu'il n'y a pas non plus dans Le Règne Animal. C'est vrai que là pour le coup, je trouve que c'est peut-être ce que le cinéma permet plus fort que la série, c'est le prototype quoi.
Ouais.
C'est-à-dire que dans une série, on a besoin de plus de cohérence quand même. On a besoin d'une cohérence plus forte. Et même d'ailleurs, je me souviens que si j'ai pas coupé grand-chose dans Ad Vitam, il y avait une dimension comique dans l'écriture qui a pas survécu tant que ça au projet. Parce que justement on sent que la série elle est assez elle le digère ça et elle cherche sa propre cohérence sans arrêt et c'est ça qui est beau dans une série, c'est de se retrouver dans un monde, d'être en cohérence dans un monde, alors que au cinéma j'ai l'impression que l'expérience peut être beaucoup plus prototypique, beaucoup plus aventureuse. C'est tout le projet du Règne Animal d'ailleurs, on le définissait vraiment comme ça, on disait c'est un film d'aventure.
Un projet aventureux, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile à monter. Thierry, est-ce que chez CioCanal vous avez tout de suite, dès la lecture du scénario, vous vous êtes dit allez on y va, quel que soit le risque derrière, parce qu'il y a un risque j'imagine aussi.
Un risque il y avait, c'est sûr et certain. On s'est dit tout de suite qu'il y avait en tout cas une promesse de cinéma sur le scénario que Pauline et Thomas avaient écrit. On n'était pas les seuls à penser ça, je crois, parce que je pense que sur le marché, d'autres distributeurs avaient voulu tenter d'avoir ce film.
On rappelle que le premier était avec Haut-et-Court.
Oui, qui avait fait un travail formidable. Le film avait très, très bien marché déjà à l'époque, avait tenu très longtemps, était sorti sur, je crois, 150 à 170 copies à l'époque et avait une carrière exceptionnelle après une première présentation à Cannes également. Le fait est que quand on a lu ce scénario, c'est vrai que tout de suite, on s'est posé des questions ou les réflexions qu'on peut avoir à posteriori, à savoir à qui ça s'adresse, comment on va faire ceci, comment on va faire cela, et on se les est posées. Et en même temps, j'ai envie de dire, avec la chance d'être dans un groupe comme CioCanal, ce qui est le cas, je pense, de sociétés comme SND, UGC, Gaumont ou Pathé, des grands groupes français, c'est aussi de notre devoir, le mot est trop fort, mais en tout cas, c'est de notre responsabilité, j'ai envie de dire, de réfléchir parfois, on ne peut pas le faire tout le temps malheureusement, mais de réfléchir parfois à ce qu'on a envie de proposer aux gens en tant que spectateurs. Et je pense que si on arrive de temps en temps, c'est dur à faire, mais en tout cas si on arrive à allier notre plaisir de spectateur avec nos métiers, on rend en tout cas nos décisions plus fortes et on arrive davantage à les défendre, d'abord en interne auprès des financiers qui nous gouvernent, mais aussi ensuite auprès du public, parce qu'on sait qu'on y a mis une ardeur et une ferveur qu'on n'aurait peut-être pas mis sur d'autres types de projets. Donc j'ai évidemment aucune leçon à donner, et je sais, nous-mêmes on fait parfois des films sur lesquels on est moins impliqué, j'ai envie de dire, que sur Le Règne Animal dès le début, mais ce scénario-là, cette histoire-là, ce qui est sûr et certain, c'est que quels que soient les gens qui allaient avoir à travailler sur ce film, je pense aux ventes internationales, je pense aux gens du catalogue et je pense à nous principalement en distribution France, sans parler évidemment de la production et des acquisitions, c'était vraiment l'idée que ce film-là avait sa place première, sa place privilégiée, son écrin devait être celui de la salle de cinéma. Ça, on en était vraiment certain. Quand on est certain de ça, c'est tout de suite plus aisé ensuite de défendre son bout de gras auprès de tout le monde, auprès des chaînes de télévision, auprès d'un producteur pour lui faire comprendre que c'est avec nous qu'il faut travailler, puisque c'était le cas, et naturellement auprès ensuite de toute la chaîne, que ce soit les exploitants, la presse, les festivals où on a voulu présenter le film, voilà, tout ce qui s'ensuit ensuite.
Ce qu'on ne dit peut-être pas assez, c'est à quel point le film était aussi un défi technique, notamment en termes d'effets spéciaux. Ouais, mais je pense que aux yeux du, enfin, ça a été dit, mais il faut avoir conscience de ça, je pense aussi pour ceux qui nous écoutent, que ça se, quand je disais que ça se montait pas forcément facilement, c'est que derrière le fait de dire oui à ce film, il y a aussi tout un défi technique, comme je disais, au niveau des effets spéciaux. Je crois que j'avais entendu un podcast très intéressant avec notamment Julien Dupuis qui revenait justement sur tous les corps de métier qui ont été nécessaires et tous les spécialistes des effets spéciaux français qui ont travaillé sur ce film, en fait. Je ne sais pas si vous voulez nous dire un mot là-dessus, mais c'est rare qu'un film français...
Oui, mais on a découvert, vraiment de manière modeste, on a vraiment découvert tout un écosystème qu'on ignorait totalement. C'est-à-dire que les effets spéciaux, moi j'avais déjà travaillé avec eux sur ma série, sur mon film, en VFX, un petit peu, on va dire, et à la marge. Et les SFX, make-up, un petit peu aussi. Là, on a vraiment dû commencer un travail avec eux plus d'un an avant le tournage. Et un travail qui impliquait parfois de réécrire des scènes, parfois de reprendre complètement les découpages. Donc ça a été vraiment des partenaires très très privilégiés. Ils ont été nombreux, quoi. Et on a découvert effectivement pendant toute cette année et demie de prépa qu'il y avait en France un grand nombre d'artistes et d'artisans dans ces métiers qui étaient hyper forts, qui travaillaient sur la plupart du temps sur des projets étrangers d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas tant de films que ça, en tout cas en France, qui mettent en scène des créatures. Parce que l'enjeu était là, c'est-à-dire que les effets spéciaux en France, on en a souvent dans les films, mais pas forcément pour animer des personnages, des personnages réalistes. Donc ça, c'était le gros truc. Et puis alors vraiment, au début de la prépa, quand on nous demandait à mon producteur ou moi-même comment on allait faire, vraiment on était honnête, on savait pas. C'est-à-dire qu'on savait vraiment pas ce que ça allait donner. Moi, je pouvais rassurer les gens à qui on parlait, quand on a discuté d'ailleurs, même là, pour la première fois avec Studio Canal, j'essayais d'être rassurant sur le fond, c'est-à-dire sur ce que le film raconte, sur les trajets des personnages, sur l'émotion que ça doit susciter à tel ou tel moment, mais sur comment on va faire les créatures, à quoi elles vont ressembler, on a été très transparent, on n'a aucune idée, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu des mois et des mois de recherche de dessins 2D, crayons, avec différents dessinateurs, avant de passer à des premières simulations parfois 3D qui n'ont rien donné. On est reparti à zéro sur pas mal de personnages à partir des acteurs. Ensuite, on a moulé les corps des acteurs, on a essayé d'imaginer d'autres choses, on les a scannés. Il y a eu des couches de travail pour aboutir finalement à une hybridation des effets. C'est-à-dire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout mélangé. C'est-à-dire que pour chaque plan et chaque créature dans le film, il y a toujours un acteur, il y a toujours du make-up, il y a toujours des prothèses, il y a toujours des effets plateaux, il y a toujours des VFX, mais il y a toujours des designs, mais tout ça est mélangé, et au point où même moi, aujourd'hui, je suis même plus sûr de savoir comment on a fait tel ou tel plan. Enfin, je plaisante un peu là.
C'est vrai que Thomas a raison, quand on a vu, je me souviens d'une réunion qu'on a faite dans le bureau chez Norwest, où il y avait un mur entier maculé de dessins de bêtes ou de bestioles, sans savoir exactement, on posait sans arrêt la question à Thomas.
De créatures.
On se dit, mais tu vas faire ça vraiment? Ça va être dessiné? Ils vont porter les ailes, ou est-ce qu'elles vont être faites après? Et Thomas disait, je ne sais pas trop encore, effectivement, parce que tout était possible, en fait, en fonction de la manière dont on décidait de réaliser ces effets spéciaux-là.
Arthur.
Et Thomas, c'était une de vos volontés quand même d'avoir des effets spéciaux pratiques, quelque chose qu'on voit qui est de plus en plus rare en plus dans les productions.
Oui, en tout cas, le sentiment, l'espèce de sensation que j'avais, c'est que les films que je voyais même à très gros budget et faits intégralement en VFX, j'étais pas convaincu. J'avais l'impression qu'il y avait un truc en termes de texture, en termes de gravité, en termes de direction de regard, où je croyais pas au personnage, jamais totalement. Donc l'intuition première, c'était de se dire, le concept du film, c'est quand même des êtres humains qui se transforment. Partons des êtres humains. Donc on a vraiment essayé de faire ça au maximum. Mais là où je pensais que ça allait simplifier la tâche, en fait, ça la complique. C'est-à-dire que les VFX, par exemple, ils préfèrent toujours partir de rien, être travaillé sur fond bleu, sur des décors abstraits, plutôt que d'avoir ne serait-ce qu'un décor vide. Donc quand on leur dit on va pas avoir un décor vide, on va avoir un décor réel avec un acteur réel à moitié fait parce qu'on a envie de le prothéser, etc. Il faudra compléter le travail en VFX. Pour eux, c'est ce qu'ils appellent la double peine, parce qu'en gros, ils doivent rotoscoper, réinventer la 3D dans un plan en 2D, regreffer un rig, donc un squelette 3D sur un personnage qui a été filmé. Donc ça veut dire qu'en gros, ils font beaucoup de travail qui est invisible puisqu'on garde les images qu'on a tournées pour rajouter quelques détails parfois ou parfois des choses plus importantes. Donc ça a été très, très complexe.
Vous voyez un petit peu le niveau de complexité, comme vous le soulignez à l'instant. On va tout de suite, sans transition, passer à la rubrique du box-office US et international avec Julien, qui est à mes côtés, et revenir après avec vous. Mais on va peut-être parler d'effets spéciaux ou pas, Julien, cette semaine, dans le box-office US.
Non, c'est surtout Arthur qui va s'occuper du box-office.
Ah, pardon,
US
alors là, on va y aller. Donc je vais la refaire.
Mais de toute façon, non, c'est pas grave, de toute façon. C'est toujours la soupe à la grimace. Là, on est sur la deuxième semaine consécutive où le box-office US a du mal à émerger. Mais c'est principalement dû au manque de propositions. Hein. Tu es dans un secteur où il faut des fortes propositions. Voilà, aujourd'hui on est en manque et ça se ressent sur le marché, donc ça se joue sur les continuations. Ils ont des soucis différents par rapport au box-office France, puisqu'on a une production locale qui, l'année dernière, nous a permis, par rapport aux autres marchés, justement, d'être à un niveau supérieur. Mais donc cette semaine, Arthur, on avait quoi qui est resté en tête ou qui s'est maintenu?
Ouais. Écoute, au niveau du box-office international, on a quand même une nouveauté cette semaine, un film indien, le film Fighter, sorti quand même dans 23 territoires, qui prend la tête, avec 24 millions de dollars de box-office à l'international. Et pour le reste, comme tu l'as dit, c'est surtout des continuations des semaines précédentes. Donc deux films américains, comme que ce soit Anyone But You, qui rajoute 19 millions de dollars à son box-office international, dont les recettes françaises, dont tu nous parleras tout à l'heure.
Tout sauf toi en français.
Tout sauf toi en français, absolument. Et The Beekeeper, le fameux film Amazon, donc le film de David Ayer qui
ne sortira pas en France.
Ne sortira pas en France.
On le redit la dernière fois.
Porté par Jason Statham et qui lui du coup prend la troisième place. Là où il est.
Et malgré des bons résultats, puisqu'il a plus de 100 millions de dollars de recettes au worldwide, c'est un des meilleurs résultats pour Jason Statham. Alors on le sait, là c'est un problème parce que c'est Amazon et donc la chronologie des médias qui empêche une sortie. Mais c'est vrai que c'est tout de même un manque à gagner. On peut voir qu'il y a un truc qui cloche ou voilà, en tout cas le cinéma français n'aura pas la chance d'avoir Beekeeper
pour booster un petit peu les entrées.
Pour le reste, je reviendrai en détail sur le box-office US, mais on peut quand même noter le maintien de John Kim Walking, le fameux film chinois dont on avait déjà parlé la semaine dernière, et une dernière nouveauté qui vient compléter ce podium des 10 films ayant le meilleur box-office à l'international. Il s'agit d'un film japonais, un film d'animation japonais, Mobile Suit Gundam Seed Freedom.
Merci pour ce titre.
Il s'agit de la suite d'un film sorti il y a quelques années déjà, donc, sorti par un distributeur local là-bas.
Très bien, merci beaucoup Arthur.
Et je crois que c'est une première aussi qu'un film indien soit en tête du box-office mondial. Même si c'est 23 millions de dollars de recettes, c'est une première.
Même si on voit de plus en plus de films indiens comme ça gravir les échelons de ce box-office inter, surtout en période de manque de films US.
Au niveau du box-office US, c'est Jason Statham qui prend la tête. Après deux week-ends à être resté en seconde position, il perd que 14% de ses recettes et passe devant du coup Mean Girls qui était premier la semaine dernière. Beekeeper et ses 7,4 millions, ça représente quand même les recettes les plus basses depuis le mois de septembre 2022, quand Top Gun avait repris la tête avec ses 6 millions d'entrées.
Après, le mois de janvier a quand même toujours été assez faible en Amérique. Et ce qui a beaucoup changé, c'est le fait qu'auparavant, les films dits à Oscar étaient encore à l'affiche. Et du coup, avec les annonces des nominations, arrivaient à reprendre la tête du box-office. Mmh. Ce qui aujourd'hui est moins le cas, puisque les films sont déjà disponibles, soit en pivot, soit sont plus en salle, soit sont visibles à d'autres manières, en tout cas qu'en salle de cinéma. Donc ça explique un peu ce box-office à tonnes.
Bah là, on le voit notamment avec Pauvre Créature, du coup, qui, malgré un élargissement de son... Ouais. De son nombre d'écrans aux États-Unis, il est passé de 1410 à 2300 écrans. Donc il atteint les 3 millions de dollars sur son...
Les 11 nominations, ils ont... D'accord.
Avec les 11 nominations. Donc il remonte un petit peu, mais c'est vrai que ça reste...
C'est petit, quoi.
Petit. La zone d'intérêt, pareil, il est programmé dans 3 fois plus de salles par rapport à la semaine dernière. Et même Anatomie d'une chute, il passe quand même de 25 écrans à 380 pour cette semaine. Et il rapporte 211 millions de dollars... 211 000
211 millions, ça aurait été beaucoup.
211 000 dollars. Donc il faut savoir que c'est le meilleur depuis sa cinquième semaine d'exploitation en novembre dernier.
Il va réussir à... C'est le sixième film français le plus vu à l'étranger l'année dernière, mais je pense qu'il va réussir à arriver dans le top 5, en tout cas avec ses entrées cumulées.
Est-ce que le Règne Animal sortira aux US ou il y a déjà des choses prévues?
Oui, c'est prévu cette année. On va rencontrer le distributeur fin février.
D'accord.
J'ai pas de date précise à annoncer.
D'accord.
Est-ce que les Américains vous ont déjà appelé pour la suite, pour une proposition d'un film ou...
Ça semble évident quand on voit le film. On se dit, le prochain, c'est un film aux États-Unis.
Non, mais j'ai vraiment décidé pour l'instant de ne pas donner. J'ai eu quelques. Oui, des...
Non, mais ils le font souvent. Donc après, suite ou pas suite.
Surtout autour de Cannes. Et voilà, j'ai reçu des mails, des propositions. C'est passé par différentes voies. Mais pour l'instant, je me suis dit qu'il serait temps plus tard.
On est bien en France.
Ouais. Hein. On est pas mal en France.
Bah, hein. Évidemment.
En tout cas, merci beaucoup, messieurs, pour ce box-office US et international. Le temps aussi de dire, parce qu'on parlait évidemment de l'effet Oscar et de l'effet César, rappelons quand même, hein, Studio Canal, vous êtes cette année extrêmement bien loti au César, avec non seulement, on le disait, Le règne animal, mais aussi Je verrai toujours vos visages. 9 nominations, c'est ça?
Ouais, 21 nominations en tout, du coup, avec 2 films. Donc il y a d'autres distributeurs en moins de nominations, mais avec plus de films. Donc oui. c'est ça. Enfin, voilà, je pense que les,
mais la,
les...
la moyenne par film est plutôt positive.
Positive, oui, voilà. C'est... Mais on le sait, ça fait très plaisir, mais c'est... les Césars, c'est vraiment la photographie d'une année principalement, donc on peut s'enorgueillir de ça, s'en réjouir surtout.
Une belle année pour Studio Canal, puisque vous avez repassé la barre des 10 millions d'entrées au cumul, chose qui n'avait pas été le cas depuis, je crois, 2018.
C'est la 4e meilleure année de l'histoire de Studio Canal, en tout cas, donc on est très heureux de ça, avec effectivement des très beaux succès qui sont consacrés par les nominations au César, comme Je verrai toujours vos visages ou Le règne animal, et des très gros succès populaires également, comme Alibi.com numéro 2 ou 3 jours max, qui ont rempli les salles de cinéma de nos amis exploitants et ravi le cœur de nos spectateurs. Donc on est très heureux de ça. Non, c'est une très belle année, c'est vrai, on l'a déjà dit, il faut se réjouir, tu l'as dit Julien, de la part de marché du cinéma français en France, qui permet, on entend beaucoup de choses très très négatives sur nos métiers, que ce soit sur l'encombrement des films, le nombre de films, etc. C'est peut-être vrai, je n'ai pas de d'avis à partager ici sur la question. Je dis juste que ce nombre de films, la manière dont on les travaille, le talent de metteurs en scène et de producteurs, et de talent en général, permet un vrai dynamisme de ce marché qui sauve en fait une énorme partie de l'économie globale du cinéma. Voilà. Donc je pense que ce constat-là, il faut s'en réjouir et tout faire pour le faire perdurer. Donc oui, je pense que cette chronologie nous permet, pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure Julien, nous permet en tout cas ce dynamisme-là. Si Beekeeper avait été un film, un grand film de cinéma où Amazon avait pu penser qu'il avait sa place en salle de cinéma en France, il aurait fait un deal comme il l'a fait pour Napoléon ou pour Killers of the Flower Moon, l'appel l'a fait avec d'autres distributeurs américains. Ils ne l'ont pas fait, ça veut dire qu'ils ont dû penser à un moment donné que c'était davantage sur d'autres supports que ce film-là devait être diffusé. Donc voilà, en France, en tout cas, sur le cinéma français, l'année a été effectivement très belle, avec Pathé, qui est quand même le premier distributeur de l'année, nous numéro 2, on était premier sur l'année dernière, français, absolument. Oui, français.
Et sixième, sinon.
Mais c'est important de souligner, surtout avec...
Mais c'est pas fini, parce que du coup, exactement, certains de ces films vont continuer leur carrière. Le règne animal, voilà, justement, grâce aux 12 nominations, va être diffusé dans plus de 200 cinémas à partir de la semaine prochaine, ou la semaine d'après d'ailleurs, juste avant pour profiter un tant soit peu au maximum de l'éventualité d'une récompense. Ouais. Donc en tout cas, oui, on va donner la possibilité aux gens, en plus des festivals Télérama ou des incontournables UGC qu'on a pu avoir et dont on a pu bénéficier en janvier, de pouvoir continuer à voir le film si ce n'est pas déjà fait parallèlement à sa sortie en VOD et en DVD.
Qui arrive le 7 février.
Exactement, la semaine prochaine.
Donc d'ailleurs, soulignons aussi sur ce point l'effort de Studio Canal de sortir Le règne animal en 4K, en outrage et 4K, ce qui est rarement le cas pour les films français.
Il y a peu de films français qui peuvent vraiment s'y prêter quand on voit l'attention portée à la fois au son et à la musique du film de Thomas. Il était évident pour nous, dans un marché pour le coup qui... On ne peut pas dire que le DVD soit un marché très dynamique. En revanche, le marché 4K l'est, puisque vous avez dû voir les chiffres comme moi. C'est quand même plus 8% les ventes de 4K sur l'année. Donc, il était évident que, vu les qualités intrinsèques au film de Thomas, c'est ce film-là qu'il fallait sortir de la sorte.
Donc, si vous voulez le revoir dans d'extrêmement bonnes conditions, vous pouvez soit le revoir en salle, soit le revoir en 4K. Ça sera à partir du 7 février. Je voulais rebondir par rapport à ce que vous disiez, pour dire quand même que chez Studio Canal, vous aviez à la fois deux suites à Alibi.com 2 et Trois jours max, et en même temps deux films originaux, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de films originaux à passer le million d'entrées en France l'année dernière. Vrai. Et voilà, c'est parmi ces deux films, il y a bien sûr Le règne animal avec un million d'entrées qui a été atteint à force de bouche à oreille et de programmation dans les salles. Donc c'est vrai que pendant des semaines, on se posait la question, on pariait sur le million d'entrées, et c'était pas une évidence non plus d'entrée de jeu.
Tu fais bien de le dire, parce que justement, je voulais poser une petite question sur l'exploitation du film. Donc il est sorti le 4 octobre, c'est une date assez connue pour des films forts. Justement, le marché a eu du mal à cette période à se redynamiser, parce qu'on sait que généralement à partir de début octobre, ça repart. Là, il a pris un peu de temps. Il y avait Bernadette qui était sortie en même temps. Derrière, il y avait le Toledano Nakash qui arrivait. Il y avait aussi le Dupontel avec Second Tour. Et si on reprend les chiffres démarrage, on pourrait se dire, on pourrait, comment justement vous avez ressorti, parce qu'a priori, le démarrage, ils ont tous démarré un petit peu plus fort que Le Règne Animal. Au finish, sur les quatre films que j'ai cités, vous êtes le seul à avoir franchi la barre du million d'entrées. Donc quand on voit les premiers chiffres du mercredi, même du week-end, où il était à 180 000 entrées, je crois, on vit comment un petit peu la chose, parce que c'est vrai qu'au... Il y avait quand même eu le buzz de Cannes, on s'attend un peu, est-ce qu'on est déçu? Est-ce qu'on se dit de toute façon, on savait qu'il y avait une force sur le film, on savait que le bouche à oreille allait fonctionner, mais on le voyait un petit peu plus haut, parce que voilà, c'est vrai que ça a pris du temps pour se mettre en place, et le marché n'a pas aidé en plus, parce que le trend était très bas.
Il y a plusieurs choses dans ce que tu dis, c'est que la première, c'est que le marché était effectivement, on va dire, peu dynamique, principalement de par le manque d'offres américaines. Tous les exemples de films que tu as cités sont tous des films français qui sont sortis entre le 4 et le 25 octobre. Il s'avère qu'effectivement, le manque de machines américaines appauvrit le dynamisme et la venue des gens en salle de cinéma. Donc en fait, effectivement, notre seul concurrent, notre gros concurrent de mercredi 4, c'était Bernadette, qui était sur une cible, on va dire, un peu différente de la nôtre et qui a démarré mieux que nous le jour où il est sorti. Pour répondre ensuite à la question sur le démarrage, il y a plusieurs choses sur le démarrage. Le mercredi était vraiment, vraiment décevant parce qu'on a fait, je crois, un peu moins de 25 000 entrées premier jour sans les avant-premières. On a fait une tournée d'avant-première, on avait fait quelques projections également assez événementielles depuis la présentation cannoise. Et on s'est dit, bon, ben, on avait pas mal de copies en plus en circulation, mais on n'a pas non plus voulu inonder le marché. Quand je vois le nombre de copies qu'il y a eu ce week-end sur un coup de dé de Yvan Attal, on avait quand même 150 à 160 copies en moins sur le film de Thomas. C'était en fait principalement parce que justement l'engagement des salles de cinéma à programmer le film était important. C'est là où il faut une expertise de marché, c'est là où il faut un service de programmation costaud, on en a un chez Studio Canal, avec en fait une équipe qui a su en fait s'approprier le film et faire en sorte de que les salles de cinéma fassent confiance d'abord en eux et ensuite aux films qu'ils avaient à promouvoir. Donc ce qui est vrai, c'est que toutes les salles, vous qui êtes principalement programmateurs ici le savez, c'est difficile aujourd'hui l'engagement d'une salle de cinéma par rapport à un film. Alors on essaye de décider qu'un film va être à l'affiche pendant plusieurs semaines, on donne des paliers où on peut discuter en fonction de la continuité ou pas, quelle que soit la carrière de ce film-là. Et ça a été un énorme boulot de programmation qui a été fait sur Le Règne Animal. Le week-end ensuite, par contre, a été assez satisfaisant parce que on a été là où on s'est dit le mercredi, si jamais on fait pas 150 000 entrées le samedi, bah ça va pas. On les a fait. Donc déjà on s'est dit, ça y est, les gens ont attendu un petit peu parce que c'était pas évident à proposer non plus. Évident à voir, je le redis, les spectateurs premiers des films français en France, de manière majoritaire, de manière grand public, sont les gens de plus de 50 ans. Si on avait affaire ici à un film qui était aussi un film de genre, on le sait, qui n'est pas le genre le plus approprié pour cette cible-là. On savait que les gens n'allaient pas se déplacer en masse dès le début. On avait confiance dans le film naturellement, mais c'est vraiment le premier samedi qui nous a soulagés, j'ai envie de dire. Exactement, réconfortés par rapport aux deux premiers jours de démarrage.
Et
il y a autre chose, mais j'ai oublié, je sais plus. Ouais.
C'est pas grave, on y reviendra. En tout cas, ça a terminé à plus d'un million.
T'as pas parlé de la canicule et des puces de lit, mais sinon c'était assez. C'est
raison, Thomas. Je parle jamais des puces de lit.
On n'en parle plus.
Ah, il y en a une là, regarde. C'est pas vrai.
Non, et l'autre thème dont tu as parlé au tout début, Thomas, c'était sur la transmission. Moi, c'est vrai que la première fois que j'ai vu le film, je suis sorti de la salle et je me suis dit, déjà, on a quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs. Et ensuite, on a envie de le transmettre. Et à l'intérieur du film, même, il y a cette... Donc, moi, j'avais envie d'emmener ma fille voir tout de suite le film. Et déjà, elle n'est pas très âgée, elle doit avoir 13 ans. Je me suis posé la question, est-ce qu'elle est en âge ou pas? Et je pense que oui, que c'était important, en fait, de justement cette transmission. Mais à l'intérieur du film, on parle de transmission, la transmission de la planète, on parle de la transmission générationnelle. C'est un thème récurrent et je trouve très fort. Et en fait, ça englobe... on a envie de parler du film, et à l'intérieur du film, on retrouve ce thème. C'est quelque chose que tu avais calculé, bien évidemment, avant, mais sur cette transmission à tous les niveaux, parce qu'il y a vraiment plusieurs strates, en fait, à l'intérieur.
Oui, je crois que c'est inhérent en fait au concept de mutation. C'est-à-dire que il y aurait pu y avoir un film. Il y a un film qu'on n'a pas fait, qui est vraiment le film où on s'intéresse vraiment juste à la mutation, le body horror, le corps, comment il est transformé, etc. Mais au-delà de ça, ce qui m'intéressait moi, c'était comment ça transformait une cellule familiale. Comment on s'intéresse justement à cette boîte noire de ce qui se transmet entre un père et un fils dans un monde qui va pas très bien. C'est-à-dire que le père se pose la question de qu'est-ce qu'il donne en héritage à son fils. Et de la même façon, Émile se demande qu'est-ce qu'il va faire de ce leg. En gros, est-ce qu'il doit rester humain, est-ce qu'il doit se déplacer vers autre chose, etc. Et autour d'eux, il y a la question du rapport qu'ils entretiennent à un monde qui bascule. Donc là, ça devient plus écosystémique, plus environnemental et peut-être même plus politique. C'est-à-dire que c'est comment on cohabite tous. Donc c'est des questions très vastes et c'est toujours la question de ce qui nous relie les uns aux autres. Donc j'étais assez confiant sur le fait que ce qui m'intéresse et ce qui m'émeut dans ce projet, c'est ça, c'est les liens. Donc au final, si ça a été l'argument principal pour lequel les gens se sont échangé le film, je m'en réjouis.
Un petit mot sur les salles de cinéma. On disait tout à l'heure, il y a eu une tournée. Qu'est-ce qui t'a marqué dans les salles de cinéma? Est-ce qu'il y a une salle en particulier que tu retiendrais de parmi celles où tu t'es rendu sur ce film, ou d'ailleurs sur Les Combattants, où tu es peut-être même retourné après un premier passage pendant Les Combattants?
La première qui me vient, c'est le MK de Nation.
Très bien.
Je pense parce que c'était la veille de la sortie.
Max est fou de joie à côté. C'est à côté de chez lui.
Et en plus de ça, oui, parce que tu parles aussi des combattants. Il se trouve que dans la salle, il y avait mes chers amis Hubert Charuel et Claude Lepape.
Qui étaient dans la même promo de la Fémis.
Exactement. Et Claude qui avait écrit les combattants avec moi. Donc c'est peut-être pour ça que j'y pense. Mais en tout cas, ouais, c'était très chaleureux. C'était la veille. Et du coup, ça m'avait fait du bien parce que j'avais pu du coup simplement dormir.
Je pose la question pour savoir, est-ce que tu sais quelle salle a fait le plus d'entrées?
J'imagine les Halles.
Évidemment, c'est bien sûr les Halles, mais de loin, hein, puisque d'après. Alors évidemment, le film est encore en exploitation, donc voilà. Mais ils en sont à plus de 21 000 entrées, 21 278. Et la deuxième, c'est Lille UGC avec 10 082 entrées à date. Et si on va du côté des indépendants, là, il faut aller du côté de Lyon, avec le Comédia de Lyon, 6 922 entrées. On les salue. MK de Nation est pas loin. D'ailleurs, je crois que sur le 14h, ils avaient très bien démarré à Nation, puisqu'ils sont juste au-dessus du Comédia avec 7103 entrées. Enfin voilà, c'est aussi sinon le 14 à Nantes aussi qui fait 6500 entrées. Enfin, c'est toutes ces salles-là qui ont fait des très beaux résultats avec ton film. Hein. C'est quand même pas rien non plus de le souligner. Il y a eu un bilan là des films Arrêt Essai qui est tombé il y a peu de temps sur les films qui ont fait le plus d'entrées l'année dernière. Mais c'est important de souligner aussi qu'au-delà de ce qu'on disait tout à l'heure, de l'importance de ce projet à l'échelle du cinéma français, c'était aussi, et avant tout peut-être même, un film recommandé à Réessai qui a été exploité dans tous les types d'exploitation.
Mais du reste, c'était le cas, effectivement, tu le disais tout à l'heure, de l'ensemble des films millionnaires qui ne sont pas des franchises, que ce soit le film de François Ozon, Tirailleurs, Je verrai toujours vos visages, ouais. Le film de Thomas ou Anatomie d'une chute, naturellement. Sont des films qui ont été exploités dans tout type d'exploitation. C'est ça aussi, en fait, qui est important. Ouais. C'est des films qui, non seulement, ont permis à des salles Arrêt Essai d'engendrer beaucoup d'entrées, jusqu'à encore la semaine dernière avec le Festival Télérama, mais aussi à des salles dites de circuit, sans doute de faire un travail un peu différent que de ce qu'ils font d'habitude. Donc c'est ça aussi qui réconcilie, je pense, tout type d'exploitation. C'est ce type de proposition de cinéma.
Exactement. Et alors, la salle, sais-tu quelle salle a gardé le film le plus longtemps à l'affiche? Ça, c'est une question piège, mais parce qu'on ne sait pas du tout. c'est difficile de le dire comme ça.
En tout cas, je l'ai vu au Halles assez tard, donc j'aurais dit les Halles comme ça, mais peut-être pas.
Eh bien, figure-toi que... Alors, faut savoir, je vais reprendre la question autrement. C'est sur Les Combattants. C'était les 400 coups d'Angers qui avaient tenu le film 21 semaines. Et pour ce qui concerne, alors c'est pas encore fini, mais pour ce qui concerne notre règne animal, c'est le club à Grenoble. Et ça nous fait chaud au cœur, puisque Quentin Dufourdet, qui était avant directeur adjoint des 7 Batignolles, est maintenant directeur du club à Grenoble. Et on l'a eu par téléphone il y a quelques jours de ça, donc on le rappellera peut-être à cette occasion pour le souligner, je sais qu'il nous écoute. et ils sont au même niveau que l'Utopia d'Avignon, qui a également gardé le film 17 semaines.
Ils sont à combien d'entrées ?
17 semaines. Alors, le club est à 6345 entrées et Avignon, Utopia, à 4413 entrées. Voilà. C'est des petites stats comme ça qui font plaisir quand même quand on y pense. Il est l'heure maintenant de parler des chiffres, justement, dans ces salles françaises. Je laisse le jingle peut-être à Max. C'est parti.
C'est hyper beau le cinéma.
On va attendre les chiffres impatiemment.
C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas.
Et accrochez-vous.
Alors c'est parti, que s'est-il passé ce week-end dans les salles, Julien ?
Eh ben, un excellent week-end. Non, c'est toujours la soupe à la grimace, c'est toujours la grisaille au niveau du box-office, puisqu'on est à 1,8 million d'entrées cette semaine. C'est à peu près équivalent, c'est légèrement en dessous la semaine dernière, moins 5%. Que te dire, manque de locomotives, évidemment. On est sur un marché qui est en dessous des standards sur la période, puisque généralement ça tourne plutôt autour de 2,5 millions d'entrées. Ça fait trois semaines de suite consécutive qu'on est en dessous des 2 millions d'entrées, en sachant que l'année dernière, la première fois où le week-end était en dessous des 2 millions d'entrées, c'était en mai. Donc on s'inquiète un petit peu. On va voir un petit peu comment se profile février, mais on commence à un petit peu à s'inquiéter.
Avatar l'année dernière quand même.
Il y avait Avatar qui avait assuré le mois de janvier.
Hein.
Et c'est vrai que les films, justement, pour la période des Oscars, César, on a l'impression qu'ils sont présents, mais un petit peu moins forts. Il y a moins un phénomène, comme, je ne sais pas, certains films, justement, vont chercher du million d'entrées. Là, ça reste, il y a des beaux chiffres sur certains films, mais pas assez, et ça reste limité. Ça reste très, très cinéphile, ça a du mal à agrandir au niveau du public. Donc cette semaine, juste pour faire un rapide résumé, donc on a eu deux films qui étaient au-dessus de 100 000 entrées alors qu'on en avait quatre la semaine dernière. Le top 3 représente 20%, donc il n'y a pas d'effet concentration, c'est dilué. On a 5 films français dans le top 10, il y en avait 5 la semaine dernière. Et 4 nouveautés dans le top 10. Donc parmi justement, en numéro 1 du box-office, on retrouve Un coup de dé distribué par SND qui démarre à 182 000 entrées. Si je ne me trompe pas, vous avez le droit de revenir. J'ai plus toutes mes feuilles.
Oui, t'as tout perdu. Bordé là, tout va bien. Mais Un coup de dé, alors à la fois, il est numéro 1 et en même temps, on a du mal à se réjouir quand même de ce chiffre.
Oui, mais ce n'est pas un mauvais résultat pour Un coup de dé. Parce que déjà, si tu regardes sur le genre thriller, c'est l'année dernière, il n'y en a pas beaucoup. Par exemple, Vision, il avait terminé à 172 000 entrées. Ouais. Je ne sais pas si soudain seul, on le met dans les thrillers.
À la fin du week-end, fin de carrière.
Fin de carrière, tout à fait. Soudain seul, lui, il avait ouvert, il était à 95. Et alors, j'ai trouvé un équivalent, puisque comme tu le disais, on regarde beaucoup les comparables. Ouais. On est dans une industrie de comparables et il n'y en avait pas pour le règne animal, justement. On était bloqués, on ne savait pas quoi dire.
On ne savait pas où d'aller.
Et donc, c'était Compromat, lui, qui avait ouvert à 175 000 entrées et qui a terminé à 600 000. Ah ouais. Mais, si on regarde au niveau des notes et de la notation, c'est un petit peu plus dur sur Un coup de dé. Donc on va dire que la fin, elle sera autour de 400-450 000 entrées, à voir aussi en fonction du marché, si je ne sais pas si les jeunes peuvent s'en emparer un peu pendant les vacances. Mais on va regarder ça. En tout cas, donc c'est pas un mauvais démarrage.
En tout cas, il a aussi profité du fait qu'il n'y avait pas de proposition américaine, comme tu le soulignais cette semaine.
Ensuite, en deuxième position, on retrouve Pauvre Créature. Charlotte, je crois que tu voulais nous en parler un petit peu.
Oui, exactement. On retrouve Pauvre Créature, la sortie de Disney. À titre de comparable, j'avais pris Nightmare Alley, hein, qui était la sortie en 2022 par Disney également, qui cumulait 223 600 à peu près entrées à l'issue de son deuxième week-end, pour une fin de carrière à 413 000 entrées, un peu plus, 414 000. Bon, il comptabilisait quand même une baisse plus grande que Pauvre Créature, qui lui est à moins 27% entre son premier et son deuxième week-end. Donc on peut imaginer une fin de vie, dans tous les cas, au-dessus des 500 000 entrées. Maintenant, je ne sais pas si tu as plus à dire, Julien.
Non, c'est ça. Il est légèrement au-dessus de la favorite, lui, qui avait terminé, on en parlait tout à l'heure, je crois, autour entre 450 et 470 000. Et comme tu dis, là, il faut regarder surtout au niveau des pertes. Et il se maintient bien avec du moins 25, deux fois de suite. Donc, on valide les 500 000 et plus. Wonka, on en est où, Charlotte ?
Oui, Wonka. Écoute, Wonka, donc la sortie de Warner, on ajoute 93 000 entrées et on passe la barre des 3 500 000 entrées, donc c'est très 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 bien. Il y a une baisse de 34%, mais ça reste un peu le seul dans ce type-là dans le marché pour l'instant, donc je pense que ça va continuer un petit peu son avancée, s'aligner, et en tout cas, c'est très bien. En dessous, on a Chasse gardée qui est toujours en place, hein, dans le top 5, Julien.
Ben, Chasse gardée, Thierry, on en pense quoi de la surprise de Noël?
Parce que... c'était pour le coup, c'était vraiment. Je peux en parler facilement parce que c'est un film qu'on aurait adoré distribuer. Parce qu'on était sur les rangs avec nos amis du UGC, c'est UGC qui a eu le film, et pour le coup c'était vraiment le scénario d'une très bonne comédie, très populaire, mais une très très bonne comédie avec un pitch quand même vraiment parfait, un acteur que les gens aiment vraiment beaucoup qui est Didier Bourdon, et puis de la découverte de jeunes comédiens qu'on voyait moins au cinéma comme Hakim Jemili ou Camille Lou, et franchement le film tient ses promesses d'une comédie vraiment très ancrée en province, on peut le voir dans le
quotidien Paris-Province,
voilà, et qui marche très bien et qui plaît, le film est très bien produit et très bien sorti.
On avait déjà parlé, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette notion nord-sud, où là, ras des villes, ras des champs, qui fonctionne assez bien au cinéma, ou en tout cas, alors, en tout cas, le film, il a un coefficient quand même de 41,5. Alors, Tom n'est pas là pour nous rappeler la définition du coefficient, mais si vous réécoutez les anciens podcasts, on le répète assez souvent. Ensuite, en cinquième position, nouveau démarrage, c'est May-December, distribué par ARP, qui démarre à 97 000. On va dire qu'il est dans la moyenne haute des films à réessayer, comme on a pu le voir l'année dernière. Il est en dessous des derniers films, des meilleurs films de Todd Haynes, qui avait ouvert, je crois, j'ai plus tout sous les yeux, mais autour de 120-130 000 entrées. Donc ce qui est plutôt logique, on va dire, comme résultat.
Oui, c'est logique. En même temps, c'est ça qui est un peu compliqué. Je trouve que sur le créneau vraiment à réessayer, il y a une espèce de plafond de verre que ces films-là n'arrivent pas à percer aujourd'hui, là où avant, des films d'auteurs dits porteurs, c'est un terme très facile à dire quand les films sont sortis, hein, mais arriver à faire 700, 800, voire plus, 800 000 entrées, là aujourd'hui, ces films-là, c'est des films de grande qualité, hein, je pense au film de Wenders qui fait 400 000 entrées, au film de Kore-eda qui arrive aux 300 000, sont des grands films de cinéma qui, dans un temps plus ancien, auraient pu sans doute... espérer faire peut-être pas le double de ce qu'ils font, mais en tout cas plus d'entrées encore que ce qu'ils arrivent à réaliser. Aujourd'hui, on se satisfait des entrées là, et tant mieux. Ou je pense au film de Ken Loach, The Old Dog par exemple, qui fait même pas 400 000 entrées, je crois, ou c'est 400. Mais en tout cas, ces films-là qui sont des grands films à réessayer avec une cible très très clairement définie, ben celle-ci, elle vient un petit peu moins au cinéma qu'elle venait auparavant, ou alors elle y va, mais elle est peut-être plus sélective encore qu'elle ne l'était.
Non, mais comme tu le dis, en plus, ça ne joue à pas grand-chose, parce que justement, alors j'ai retrouvé Carole, il avait ouvert à 135 000 entrées, il termine à 470, Dark Waters, 130 000. Donc c'est vrai qu'il y a toujours cette barre d'aller chercher ça, ouais. 120, 130, parce qu'on reprend Nomadland, alors lui qui avait eu une tenue extraordinaire, mais donc ce n'est pas pour tous les films, lui il avait ouvert à 100 000, Empire of Light, il avait ouvert à 86 000, et Asteroid City, il avait ouvert à 92 000. On retrouve donc cette moyenne. Ensuite, Charlotte, je crois qu'on a tout sauf toi, un film qui te tient à cœur.
Mais oui, non, mais ça me tient énormément à cœur parce que je pensais avoir été un peu visionnaire sur ce film puisqu'il y a une énorme trend TikTok américaine à la base, parce que Anyone But You est sorti bien avant Tout Sauf Toi et je pensais que ça allait suivre en France. J'ai vu quelques vidéos effectivement tournées, mais la trend n'a pas autant pris que Le Consentement finalement, puisqu'il démarre avec 76 000 entrées, donc c'est pas trop mal pour une comédie US comme celle-là, parce que par exemple le Challenge qui était sorti précédemment par Sony cumulait environ 40 000 entrées à l'issue de son premier week-end. Donc on est 46% au-dessus finalement avec Tout Sauf Toi. Voilà, une fin de vie par rapport à Last Christmas par exemple, qui était une sortie universelle qui lui faisait à peu près 100 000 entrées à l'issue de son premier week-end. On peut espérer une fin de vie à 200 000 entrées et peut-être que la trend TikTok va finir par prendre et faire plus d'entrées. C'est une grande question. Moi, j'y crois beaucoup et j'y croyais beaucoup, donc je suis un peu déçue.
On va voir en tout cas ce qui était intéressant.
Tu veux ranimer la comédie romantique surtout, dis-le. C'est ça le...
C'est une bonne idée,
surtout avec Love Actually qui est ressorti.
Absolument, qu'on a ressorti l'année dernière pour les 20 ans de la sortie de Love Actually. Pour le coup, c'est une belle comédie romantique. Exactement. Mais un peu différente de celle-ci. En fait, ce genre de film-là, comme Tout Sauf Toi, ressemble un peu à ce qui se passe en littérature en ce moment, avec toute une frange de littérature que je connais très mal d'ailleurs, hein, j'en parle là, mais de livres... À mon époque, il y avait un peu ce qui s'appelait les collections Harlequin, qui étaient des trucs très, très à l'eau de rose. Et en fait, il y a tout un pan de la jeunesse qui s'empare de cette littérature. Mais des livres, ils en vendent 400 000 par titre. Enfin, des choses absolument monumentales et qui est un pan de la littérature qui marche très, très bien. Soit c'est très à l'eau de rose, soit c'est dans un contexte où les femmes sont abusées. Enfin, c'est soit dark comédie, soit comédie romantique. En fait, c'est très... Mais ça marche très, très bien. Au cinéma, en France, c'est un peu plus compliqué quand même.
Ouais, mais c'est dommage en vrai, parce que je trouve qu'on passe à côté de trucs truc assez important, assez intéressant.
À côté de grands films.
Bah, oui, parfois.
C'est un autre débat. Avançons.
Non, mais alors, ce qui était justement intéressant, c'est que c'était presque double test, puisqu'on sait que les comédies US, ça a beaucoup de mal depuis une dizaine d'années, à part quelques titres très spécifiques ou qui ont un pitch, on va dire, un petit peu différent. Juste pour compléter tes comptes, on avait même du Marimi qui avait terminé, qui avait ouvert à 41 000 entrées. Il y avait The Long Shot qui avait ouvert à 100 000 entrées, qui avait lui terminé à 200 000 entrées. Donc malheureusement,
The Long Shot, c'est du moi si tu peux.
C'est ça, avec Charlize Theron.
Le plus proche, c'est Game Night. Hein.
Mais donc malheureusement, le test, j'ai envie de dire à moitié réussi. On le prend comme on veut, mais en tout cas pas suffisant par rapport aux résultats qu'il a pu avoir. Mais c'est vrai qu'on va voir parce qu'il a duré aux États-Unis. Il avait ouvert de façon positive, mais surtout il a tenu.
C'est le temps que la trend TikTok arrive vraiment en France.
Exactement. Mais donc il y avait
en moyenne par copie, il est devant le coup de dé.
Exactement, parce que c'est vrai que le coup de dé, je pense qu'il y a eu beaucoup de demandes de la part des salles et il est sorti sur 560 copies. Et donc le double test aussi, parce qu'on sait qu'il y avait donc il y a les comédies US qui ont du mal, mais il y a aussi les comédies musicales. Et il y en a une qui est sortie cette semaine chez Warner, et elle s'appelle comment, Charlotte ?
C'est La couleur pourpre, évidemment. Comédie qui est donc inspirée de la comédie musicale de Broadway. Voilà, mais effectivement qui fait des entrées, assez pauvres, puisqu'il démarre en 13e position avec 39 000 entrées. Voilà, c'est pas terrible, non, bien que la Warner ait fait des super résultats ces derniers temps. Il faut bien parfois avoir des moins bons résultats, mais voilà.
Mais c'est à signaler quand même que parler de moyenne par copie tout à l'heure, et un autre film qui s'est distingué en tout cas cette semaine par sa moyenne par copie, et pour le coup c'est aussi parce qu'il est sorti dans un nombre de salles assez limité, Julien, c'est un film français, Le Dernier des Juifs,
qui se retrouve en 10e position avec une moyenne par copie de 424. Il est sorti sur 113 copies, 47 000 entrées.
Meilleure moyenne par copie du week-end, film distribué par Advitam.
Eh ben, on a envie de dire que le film est bien ciblé et qu'il aura une vie un petit peu plus longue. Mais c'est vrai que chaque film a ses caractéristiques, on ne peut pas les positionner de la même manière. On est là justement pour essayer de décrypter ça. Et c'est plutôt un beau coup parce que, comme tu le dis, je suis au niveau de la programmation, ils ont dû mettre en avant en disant voilà, on fait une sortie limitée, mais les gens ont répondu présent. La moyenne par copie corrobore justement la stratégie du distributeur et ça va lui permettre de durer, d'être présent et même d'enclencher un vrai bouche à oreille. Qui les autres salles vont regarder, vont dire ah bah tiens, en fait il y a un intérêt sur le film, peut-être que je vais le faire jouer plus longtemps.
Et on parlait de la difficulté de sortir des films américains d'auteur ces derniers temps, on peut constater aussi que chez Metro avec Iron Claw ça n'a pas été simple, c'est moins qu'on puisse dire, puisqu'ils sortent Julien
Ils sont à 40 000 entrées, ils l'ont sorti sur 223 copies. Alors étonnamment, c'est le film le mieux noté de la semaine. Les retours salles sont ultra positifs. C'est vrai, mais le catch est quand même très éloigné de la culture française. Est-ce que ceci explique cela ? Difficile, mais c'est vrai qu'il y a eu une belle promo sur le film. Donc non, je pense qu'il y a une grosse déception en termes de résultats, mais il va durer aussi, puisque tu peux pas non plus t'écrouler, même si t'es déçu par le démarrage, quand t'as des retours spectateurs aussi positifs.
C'est pareil pour La couleur pourpre aussi. Les deux sont très très bien notés et du coup.
Alors La couleur pourpre, la difficulté, c'est que tu es sur un marché où en France, malheureusement, alors je ne parle pas des Wonka, mais c'est vrai que la comédie musicale pure, de toute façon, on était, je crois que NCIS qui l'avait démarré à 20 000, Universal avait sorti Les Misérables, ça avait sorti à 200 000, donc c'est toujours compliqué. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment des fast tests, mais quand tu t'adresses à un public Wonka avec 3,5 millions, montre que tu peux les sortir aussi différemment.
On parle de Cats ?
Et on peut parler de Cats qui avait terminé à 50 000 entrées et qui était sorti pendant les périodes de Noël.
À signaler également, malheureusement, le résultat un peu décevant de Captive, sorti par Whale Bunch avec seulement 37 000 entrées au week-end. Nicky Larson, là aussi, on peut considérer que c'est décevant puisque seulement 30 000 entrées, même si, c'était peut-être pas non plus la sortie la plus attendue, mais on aurait pu penser avec 334 copies qui qu'il irait plus haut. Et Vivre avec les loups chez GBK qui fait 31 000 entrées. On le voit, hein, personne n'a eu vraiment les coups des franges pour s'imposer lors de ses sorties. Mercredi dernier, a signé que L'Homme d'argile chez New Story a fait 12 000 entrées sur 55 copies, ce qui en soi est plutôt pas mal rapporté à la moyenne par copie.
Un petit mot, Aurélien, sur notre ami Godzilla.
Oui, bah
qui
oui.
Il finit justement sa deuxième semaine d'exploitation exceptionnelle. Rappelons-le, il est sorti sous un visa provisoire avec 44 000 entrées, donc 42% en dessous, et termine du coup sa fameuse course à 171 889 entrées.
Ouais, il reste encore aujourd'hui.
Il reste encore aujourd'hui et demain.
Demain. Voilà ce qu'on pouvait dire. Julien, tu voulais ajouter quelque chose ?
Non, juste sur le, peut-être juste Bonnard, Pierre et Marthe, qui malheureusement, lui, on attendait une tenue plus solide et il a perdu encore 40% cette semaine. La semaine dernière, c'était semblable et il se retrouve à 260 000. Ce n'est pas un mauvais score, mais on l'aurait bien vu au-dessus des 300, 350. Ça ne se joue à pas grand-chose, mais voilà.
Avant de passer juste rapidement aux sorties à venir, je crois que Max, tu avais quelques questions, un petit quiz en mode sondage sur les Césars.
Absolument, j'avais préparé un quiz rapide sur les Césars. Si vous avez bien suivi l'épisode d'aujourd'hui, vous avez déjà les réponses aux premières questions. La première, c'était quel film a le plus de nominations aux Césars cette année ? C'était facile.
C'est le règne animal quand même.
Oui, c'est le règne animal.
Pas nous les voler, celle-là.
Quel distributeur a le plus de nominations au César cette année ?
Je crois que c'est Studio Canal.
Ouais, ça, c'est vrai. Ça.
C'est complètement Studio Canal, avec les 21 nominations dont vous a parlé. Ensuite, bravo. Quel distributeur a le plus de films nommés au César cette année ?
Ah,
Ad Vitam, j'aurais dit, ouais.
Ad Vitam aussi. Diafana.
C'est une égalité.
Ah oui, Diafana, ils doivent en avoir 5, je crois.
Diafana en a 4, à égalité avec Pyramide qui en a 4 aussi.
Ah ouais.
Et ensuite, il y a un distributeur qui est déjà sûr de recevoir un prix. Est-ce que vous pouvez me dire lequel ?
Non.
Universal ?
Non.
Avec Christopher Nolan ? Non.
Et c'est pas encore décidé.
Je sais pas, tu vois, César d'honneur, j'ai l'impression.
Ah oui, César d'honneur, Nolan, ouais, tu as raison, pardon, excuse-moi.
Non, César d'honneur.
Je pensais que
c'est
à
lui, c'est pas le
C'était je pensais qui, que tu me remettais
déjà. C'est un distributeur qui est dans tous les nommés.
Ouais, dans tous les nommés.
Pas mal belle stat celle-là.
Ouais, ouais. Je sais pas.
C'est qui ça ? Ah bah c'est. Non. C'est pas nous pour le meilleur second rôle féminin.
Non, presque. Il y a la comédienne de Chien de la Casse qui est nommée aussi.
Ah oui, c'est vrai.
C'est GBK qui a les 3 films nommés pour le meilleur film d'animation cette année. C'est Linda veut du poulet, Mars Express et Interdit aux chiens et aux Italiens. Et par contre, avec le meilleur second rôle féminin, Studio Canal, vous êtes le distributeur qui a le plus de nommés dans une même catégorie.
Mais ça n'a jamais arrivé, c'est la première fois dans l'histoire des Césars que 4 actrices... C'est arrivé par le passé que 3 actrices soient nommées pour le même film, pour La Crise en 93, mais ça n'est jamais arrivé pour qu'il y en ait 4, donc c'est quand même incroyable.
Vous allez l'aborder comment, Thomas, cette cérémonie ?
C'est bien habillé.
c'est jamais évident, j'imagine. Mais on peut rappeler d'ailleurs que, quelle que soit l'issue de cette cérémonie, il y a déjà eu des prix pour le film.
Ce qui
aussi,
est beau, c'est qu'on va l'aborder collectivement, surtout. Quoi. C'est des endroits où on peut se sentir parfois un peu seul. Là, on y va nombreux. Donc ça, c'est déjà très réjouissant.
Très bien. Et on verra en tout cas ce qu'il en ressortira. Évidemment, on se fera ça avec attention. La semaine prochaine, on a quelques sorties. On a, comme le veut la tradition, un petit sondage X qui apparaît avec 4 des nombreuses sorties.
Absolument. Donc on a la sortie qui est l'acquisition Apple après Killers of the Flower Moon et Napoléon qui est Argyle, distribué par Universal. La Zone d'intérêt distribuée par Backfilm. Le Bonheur est pour demain distribué par Paradis Film. Et enfin A Man distribué par Arthouse. Arrive en tête très très largement la Zone d'intérêt avec 69% d'envie. En dessous Argyle avec 26%. Et enfin collé c'est A Man à 3% et Le Bonheur est pour demain à 2%.
Et ce ne sont pas bien sûr les seules sorties, je disais beaucoup de sorties, il y en a 14 nouveautés cette semaine. Un mot Charlotte sur ces nouveautés ?
Oui.
Alors, tu voulais que je les donne.
Alors, je vais
les donner. Oui, vas-y. Je te laisse les donner.
Oui, alors, on a donc Argyle, évidemment, la sortie donc, d'Universal dont on vient de parler. On a également la sortie de KMBO, Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci. Ensuite, nous avons la sortie de Pan, Sous le vent des marquises, la sortie du pacte Amélia's Children, la sortie de Bagfilm, donc La zone d'intérêt, Le bonheur est pour demain, de Paradis, Eumann Arthouse, évidemment. Ensuite, nous avons La ferme des Bertrands de chez Jour de fête, They Shot the Piano Player de Dulac, Ma part de Gaulois par Alba. Ensuite, en dessous des 100 copies, on a donc la sortie par Panam, Les lueurs d'Aden, L'étoile filante sortie par Potemkin Film. Ensuite, on a Singularis Film qui sort Mambar Pierrette. Et qui sort également un autre film qui sont Les prières de Delphine. Et enfin, La traverse qui sort Moulet jeunesse ainsi que Jeunesse d'un repas. Bellissima par Camélia. Malavida Underground. Et enfin, une sortie par CGR Event qui est Cyril Lignac. Qu'est-ce qu'on va faire de toi, pardon. Voilà, donc beaucoup, beaucoup de sorties.
On essaye de dire à chaque fois toutes les sorties. C'est pas toujours facile. Ça fait beaucoup. Vous, votre prochaine sortie chez Studio Canal?
C'est un film de Gilles Demestre qui s'appelle Le dernier jaguar.
C'est très bientôt que ça arrive.
Exactement, le 7 février. Qui a fait beaucoup d'avant-première hier dimanche et qui en fait encore énormément, plus de 330, je crois, dimanche prochain.
Alors, on ne parle pas, évidemment, des entrées, des avant-premières là, tout de suite, mais on en parlera, bien sûr, une fois que le film sera sorti. Un mot pour terminer, Thomas, on a évoqué rapidement la suite, mais là, vous travaillez déjà sur un nouveau scénario, ou comment ça se passe? Est-ce que vous êtes encore dans l'après Règne Animal, ou vous êtes déjà sur un nouveau projet?
Non, là, je suis encore dans le Règne Animal, je pense jusqu'à fin février, parce qu'il y a des petites sollicitations, comme tout de suite. et puis je commence à rouvrir les tiroirs et faire le tri des idées.
En tout cas, on a hâte de découvrir de quoi seront faites ces idées. Merci mille fois d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était vraiment un honneur et bravo pour ce magnifique film, Le règne animal, qu'on vous incite évidemment à revoir et à voir si ce n'est pas déjà fait, que ce soit en salle ou en support physique ou même en VOD. Et puis, on vous dit à très vite et bonne chance pour les Césars surtout, bien sûr. À très vite sur Des beaux films.